Chers frères et sœurs, ce passage biblique nous permet d'accomplir une sorte de feu d'artifice au terme d'une année ecclésiale qui a été particulièrement marquée par les livres de Samuel. En effet, ce passage biblique, qui est somme toute assez anecdotique, comme la plupart des textes de Samuel d'ailleurs, est à la fois une leçon de vie intéressante et un lieu de concentration de tous les thèmes qui traversent les livres de Samuel. Tous ces thèmes qui tiennent à cœur au rédacteur du livre de Samuel. Et il est important de bien insister sur le pluriel de rédacteur biblique, pour ces livres de Samuel notamment. En effet, si nous nous souvenons de ce qui avait pu être dit au sujet de l'épisode entre David et Goliath, à savoir qu'il y a de nombreux passages de ce récit qui manquent dans la traduction grecque des Septante, qui date à peu près du 3e siècle avant notre ère, eh bien la chose est semblable avec ce chapitre 18. Ce chapitre 18, tel que nous l'avons entendu, n'est pas très originel en fait. Il date, dans sa forme finale, à peu près de 200 ans avant Jésus-Christ. David est censé avoir vécu vers moins 900. Il y a une douzaine de versets sur les 30 que je vous ai lus, qui ont été ajoutés après, la traduction dans le grec de la Septante. Il y a notamment les 5 premiers versets qui ont été ajoutés, là où il est question de l'amour que Jonathan porte à David. Il y a les 3 versets où Saül tente de tuer David. Il y a les versets où Saül annonce qu'il va donner, pour autant qu'on puisse donner sa fille aînée, à David, avant de la donner finalement à Adriel. Et puis il y a à la fin les derniers versets qui disent l'inimitié de Saül envers David et le fait que les Philistins perdent tout leur match face à l'équipe de David. Ces précisions sont nécessaires pour nous rappeler le travail d'écriture et de réécriture dont est issu ce que nous appelons la Bible. Loin de relativiser l'autorité de la Bible, ces constats en soulignent au contraire la valeur infinie. Parce que cette Bible, dont nous disons qu'elle fait autorité pour nous en matière de foi, gagne de l'épaisseur avec ce constat. Car nous comprenons bien que c'est le rassemblement d'une épaisseur d'expérience au fil des générations, au fil des siècles, qui a du coup beaucoup plus de valeur que si un seul rédacteur avait réfléchi à ce qu'est une vie bonne et avait voulu nous en faire part. Il y a ici beaucoup de rédacteurs qui écrivent et beaucoup de rédacteurs qui réécrivent ce qui a été écrit par le passé. Et tout cela s'entrecroise pour donner un texte avec une grande profondeur de champ. La Bible est donc une œuvre ouverte. Une œuvre ouverte sur la vie en ses multiples facettes, ce qui doit nous inviter à nous ouvrir nous aussi aux multiples facettes que la Bible aborde. Y compris ceux qui ne nous intéressent pas, y compris les facettes qui ne nous intéressent pas immédiatement. Et c'est donc le cas avec ce passage biblique, qui nous dit comment survivre dans le monde politique. Alors peut-être que vous n'êtes ni ministre ni député, mais peut-être pensez-vous aux prochaines élections municipales, et qui sait, peut-être vous demandez-vous si vous n'allez pas venir un mandat. Alors, avec ce chapitre 18, il me semble que vous avez l'équipement nécessaire pour savoir comment ne pas exploser en plein vol. Que ce soit le cas ou non, ce texte biblique doit en tous les cas nous intéresser parce qu'il nous parle du marigot que constitue le milieu politique et il nous montre comment David arrive à s'en sortir. Et cela peut être transposé en fait à tous les univers institutionnels où nous pouvons évoluer et qui, bien souvent, menace de nous écraser. Alors comment David fait-il pour s'en sortir? La réponse est simple, et vous allez me dire, c'est simple comme l'Évangile. C'est le leitmotiv que l'on trouve dans ce texte biblique, et cela vous fera peut-être même probablement doucement rire en entendant cette réponse, que vous trouverez finalement bien simpliste de prime abord. Toujours est-il que le meilleur moyen de ne pas être lapidé par la concasseuse politique, ce n'est pas le cynisme, c'est l'amour. Et c'est ce dont il est question dans ce passage biblique. Et j'aimerais vous montrer cela à travers les trois principales menaces qui sont mises en évidence dans ce passage biblique: la transition, la rivalité et les intrigues. Le premier risque, c'est la transition. Si vous vous présentez pour la première fois à une élection, c'est que vous allez conquérir un siège qui, jusque-là, n'était pas le vôtre. Dans le texte biblique, David va succéder à Samuel. Et cela représente pour lui un double défi. D'abord, il succède à Saül, alors que Saül est encore sur le trône. David est roi à ce moment précis, or David a reçu l'onction du prophète Samuel deux chapitres plus tôt, au chapitre 16, avant même qu'il tue le géant Goliath. Mais Saül continue à exercer ses responsabilités. Donc nous nous trouvons dans une situation où David est censé succéder à quelqu'un qui veut encore détenir le pouvoir, quelqu'un qui s'attache à son siège. Le deuxième défi est de succéder à Saül, alors qu'en fait on n'est pas censé être son successeur. C'est au fils de Saül de succéder à son père. C'est donc à Jonathan de succéder à son Saül de père, par exemple. Or, nous dit le texte, dans sa toute dernière version, Jonathan aimait David. En conséquence, Jonathan passa son manteau et ses armes à David. Il fit alliance avec lui, et si nous regardons attentivement les textes assyriens, nous découvrons que le principe de l'amour est ce qui est constitutif du principe de vassalité. Le vassal aime son suzerain. Quand on fait alliance avec un responsable politique dans les traités assyriens, c'est l'amour qui est le verbe employé. Dans ce passage, cela signifie que Jonathan, le fils de Saül, fait allégeance à David, qu'il aima comme sa propre âme. La succession passe du fils Jonathan à David, qui doit devenir le gendre, le beau-fils. Cela était déjà une promesse qui avait été faite au chapitre précédent, puisque Saül avait dit « Celui qui arrivera à tuer Goliath, je lui donnerai ma fille. » Ce thème, vous le connaissez bien en fait, puisque nous l'avons entendu pas plus tard que la semaine dernière, sous la plume de l'évangéliste Luc, au chapitre 15, avec une autre distribution des personnages, puisque c'est le père qui, dans Luc au chapitre 15, ayant deux fils, donnait sa robe au fils cadet, ainsi que ses armes portées sur son anneau. Et le fils aîné, lui, s'était senti comme dépossédé du pouvoir qu'il imaginait être le sien, le droit de l'aînesse. Dans les deux cas, c'est l'amour qui permet d'opérer les transitions. L'amour qui se traduit par une alliance passée entre Jonathan et David, qui permettra à David d'avoir la vie sauve par la suite, au chapitre 20. Les ajouts de dernière main, qu'on appelle les ajouts du texte massorétique, ce texte qui est maintenant le texte traduit en français, comme ceux qui figurent dans l'épisode du combat avec Goliath, peuvent être compris comme des ajouts destinés à montrer qu'il y a une vraie transition entre Saül et David. Ce dernier rédacteur a fait plein de petits ajouts pour montrer que la trajectoire de David était parallèle à celle de Saül, que David passait par les mêmes types d'événements, mais que la manière d'être était différente. Et c'est cela qui intéresse le dernier rédacteur de la Bible, montrer comment l'attitude spécifique de David permet à David de ne pas devenir fou comme Saül va le devenir lui. Et la dernière main de la Bible nous montre que ce qui permet de s'en sortir à peu près indemne, c'est cette thématique de l'amour. Vous aurez tout le mois d'août pour rechercher les éléments qui sont un parallèle entre l'histoire de Saül et l'histoire de David. Et je vous encourage à le faire parce qu'un bon petit travail biblique, ça permet d'occuper les journées un peu trop chaudes. Vous découvrirez notamment que Saül, lorsqu'il est acclamé roi au chapitre 10, a quand même une contestation de la part de ce qu'on appelle les fils de Bélial, peut-être traduit par vaurien dans vos traductions. C'est au verset 27 du chapitre 10. Quand Saül est proclamé roi, il y a de la contestation. Quand David est acclamé, c'est tout Israël et tout Juda qui l'acclame. Voilà le type de parallèle et de contraste que le dernier rédacteur a voulu mettre en œuvre. Alors que David est acclamé par tous et qu'il comble tout le monde, il est dit que David a frappé ses 10 000 alors que Saül n'a frappé que ses 1 000. Voilà un autre contraste saisissant. Tout est en place pour la deuxième chose frappe politique après la transition, la rivalité. La jalousie, l'incapacité de se réjouir du bonheur ou du succès des autres, voilà bien ce que Saül et le fils aîné de la parabole de Luc 15 ont en commun. Ici, le texte décrit avec une précision terrible le mécanisme qui consiste à jalouser l'autre et à avoir désormais toujours un œil sur lui. C'est ce qui est dit au verset 9. Saül avait désormais un œil sur David. Il l'avait dans sa ligne de mire. Le problème, c'est que quand on fait cela, alors, on perd un peu sa trajectoire, on perd un peu le cap, on est un peu comme désorienté. Et quand on a quelqu'un dans l'œil, dans le coin de l'œil, alors on devient obsédé par cette personne-là. Et pour Saül, ce qu'il a dans le viseur est une menace. Cela signifie que Saül devient obsédé par une menace. Et c'est la raison pour laquelle le texte dit explicitement que Saül commence à avoir peur. Il a peur de David, cela sera dit par 2 fois dans le texte. Alors, comme Pierre, le disciple de Jésus qui ne voit plus le Christ sur le lac de Tibériade en pleine nuit, et justement, Pierre ne voit plus que la nuit inquiétante, il voit le vent ainsi que les vagues menaçantes, qu'arrive-t-il à Pierre ? Il coule, il sombre, et Saül sombre aussi. Il sombre dans la douce folie, ce qui est ici traduit par le délire. Une douce folie qui deviendra cruelle sous la plume du dernier rédacteur qui montrera un Saül prenant lui-même sa lance pour tuer David, qui est devenu à ses yeux une sorte de monstre qu'il faut éliminer. On imagine un Saül halluciné, qui veut abattre son ennemi par tous les moyens, comme cela arrive si souvent dans le monde politique. Peu importe que la méthode soit juste, pourvu qu'elle atteigne son but. Tous les moyens sont bons pour éliminer l'ennemi politique. Quand on a quelqu'un dans le viseur, tous les coups sont bons pour l'abattre. Toutes les vilaines. Si on peut l'éliminer soi-même, ce que Saül n'arrive pas à faire, alors on trouve des pièges et on cherchera à le faire trébucher dans un guet-apens. Et pendant ce temps-là, on ne fait plus son travail. Quand la seule obsession consiste à éliminer les adversaires, les rivaux, alors on ne fait plus ce pourquoi on est élu, on ne fait plus ce pourquoi on est prié. Quand le ressentiment a pris toute la place, quand le désir de vengeance l'emporte sur tout le reste, on est plus bon qu'à transformer l'or en boue. Et c'est ce que fait Samuel. Tout ce qui touche devient de la boue. Alors que c'est exactement l'inverse pour David, nous y reviendrons. Et la folie est le signe que notre centre de gravité s'est déplacé du côté obscur de la force. L'amour, en revanche, est ce qui nous maintient dans le monde des vivants, au sens strict du terme. Si vous voulez vous maintenir dans le monde politique, aimez et soyez aimés. Aimez et soyez aimés. Ayez des amis, des vrais amis, qui en permanence seront capables de vous dire la vérité et de vous ramener sur terre quand vous vous échappez un peu trop loin. Loin des spectres qui hantent l'esprit de celui qui jalouse, la communauté des vivants, la communauté des personnes capables d'aimer et d'être aimées, peut permettre de rester à flot, de ne pas sombrer soi-même. Au verset 5, on dit que le peuple, on dit du peuple qu'il a une certaine attirance pour David. Le texte hébreu dit que David plaisait aux yeux du peuple. Ça signifie que le peuple a un œil bienveillant sur David, alors que Saül, lui, a un œil sur David qui n'est pas bienveillant. C'est là toute la différence. Et donc, David est en mesure de prendre appui sur ce peuple qui le porte avec amour et qui lui permet de ne pas sombrer. Supporter quelqu'un, c'est lui permettre de ne pas couler, de ne pas sombrer. Regardez tous les personnages évoqués dans ce texte. Saül est le seul à ne pas aimer David, mais en avoir peur. C'est au verset 15, au verset 29. Jonathan aime David. C'est dit au verset 1 et au verset 3. Les serviteurs du roi aiment David. C'est au verset 22. Michal aime David. C'est au verset 20 et au verset 28. Israël et Juda aiment David. C'est au verset 11. Et David s'en sort. Le seul à ne pas aimer, c'est Saül. Et c'est celui qui ne s'en sort pas. C'est le seul à ne pas être aimé non plus. Et c'est celui qui ne s'en sort pas. On peut considérer que l'amour, c'est bien gentil, mais c'est juste bon pour les assemblées ecclésiales. On peut se dire que l'amour, c'est bien gentil, mais c'est juste bon pour la famille. La vérité est que dans toutes les dimensions de notre vie, dans tous les lieux de nos engagements, s'il manque l'amour, nous ne sommes rien. David ne sombre pas dans la folie du pouvoir auquel on s'accroche parfois de façon pathétique, parce qu'on n'a plus rien d'autre en fait. Quand on n'a plus que le pouvoir, on s'y accroche désespérément et on devient soi-même désespérant. L'amour permet à David de ne pas être dévoré par la rivalité que nourrit Saül. D'ailleurs, la question du pouvoir n'est pas la question de David ici, qui ne cherche qu'une chose, faire ce qu'il a à faire, remplir ses missions, faire ce qui est juste. Point. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Cette phrase n'est ni de Charles Pasqua, ni de Jacques Chirac, ni de Henri Cueil. Elle pourrait être celle de Saül. Saül qui a promis sa fille à celui qui tuerait Goliath et qui finalement va la donner en mariage à un autre. Mais le cynisme n'ayant pas de limite, lorsqu'il apprendra qu'une autre de ses filles, Michal, aime David, il en profitera pour tendre un piège à David, un piège qu'il espère mortel. C'est le règne de l'intrigue. Troisième chose grave à laquelle il faut faire face en politique. Face à ceux qui ne servent pas l'intérêt général, mais qui se servent de leur fonction pour servir leurs intérêts personnels ou leurs intérêts de caste, l'amour dont bénéficie David lui permettra de passer outre les difficultés et les pièges. Après avoir donné une sorte de maroquin à David, en le nommant à la tête de 1000 hommes, une sorte de sous-secrétariat d'État, histoire qu'il ronge un peu son frein et qu'il soit sous contrôle, Saül imagine de mettre David en difficulté dans un piège qui annonce d'ailleurs ce que David fera subir à Uri, le mari de Bathsheba qu'il veut faire mourir au front. Eh bien, David va faire de ce piège un formidable moyen pour asseoir un peu plus sa renommée. On lui demandait sans prévus, ce qui était déjà phénoménal, sans prévus. On ne rapportait pas autant de scalps, autant des cow-boys et des Indiens, ni même autant des opérations spéciales durant la guerre du Vietnam. On lui demande sans prévus, David double la mise. C'est la multiplication des prévus. La différence dans ce petit passage entre Saül et David pourrait être expliquée avec un concept assez anachronique qui date de l'époque des Lumières et plus spécialement d'Emmanuel Kant. Disons rapidement que Saül vit selon l'impératif hypothétique, David vit selon l'impératif catégorique. Je m'explique. Saül, en intriguant, fait quelque chose en vue d'obtenir autre chose. Son objectif, sa finalité est dissimulée. Il intrigue. Il fait croire qu'il veut atteindre cet objectif. En fait, il y a un objectif caché et c'est cela qui l'intéresse. C'est une sorte de billard à deux bandes. Il fait croire que le mariage de sa fille est son objectif ultime, un bien absolu. Ce n'est qu'un moyen pour mettre David en danger. David, lui, vit selon l'impératif catégorique. Il vise le bien et agit en fonction de cette visée, sans intérêt caché, sans objectif secondaire. Il ne va pas faire du billard à deux ou à trois bandes. Il ne transforme pas les personnes en instruments qui lui permettront d'atteindre des objectifs personnels qui, au demeurant, ne seraient pas très fidèles à la volonté divine. La différence entre Saül et David, à ce moment de l'histoire, parce qu'après David va être un peu roublard quand même, hein, c'est que David aime les personnes, alors que Saül s'en sert froidement. Si, dans une étape antérieure de la rédaction de ce texte, l'objectif de ce passage biblique était probablement, à l'époque de Josias, de justifier l'unité du royaume du Nord, Israël, avec le royaume du Sud, Juda, en revalorisant la figure de David, qui était plutôt considéré comme un chef de bande organisé, mais un chef de bande quand même, et qui avait tout du fils cadet de la parabole de Luc 15. Quelques siècles plus tard, au moment de mettre la dernière main au texte, le peuple n'était plus maître de son histoire politique, ni même de son histoire d'ailleurs. Il était plutôt question de survivre au milieu de l'Empire qui contrôlait tout. Comment survivre dans le monde politique? Est-ce que la foi en Dieu est d'un quelconque secours en la matière? Comment survivre dans n'importe quelle institution qui parfois agit avec cynisme, qui bien souvent s'occupe des transitions et s'occupe de prendre la place d'un autre, qui bien souvent se contente simplement de gérer la rivalité parce qu'on ne supporte pas qu'un autre que soi ait quelques pouvoirs ou quelques renommées, qui en fait s'occupe plutôt à gérer à coup d'intrigue une vie politique qui n'est plus au service de l'intérêt général mais des intérêts particuliers. La foi est-elle d'un quelconque secours en la matière? Si la théologie est bien incompétente pour dire quelle doit être la politique d'un gouvernement, il faut bien insister là-dessus. La théologie, en revanche, est bien équipée, notamment par ce texte, pour repérer les comportements politiques déviants, pour repérer les comportements institutionnels déviants, pour repérer les comportements déviants, tout simplement, pour maintenir les consciences éveillées sur les manières d'être problématiques, mais aussi pour rappeler qu'il y a une alternative à cela. Il y a une alternative au cynisme. Une alternative qui ne manque pas d'efficacité et que les textes bibliques nomment l'amour. Rappeler la puissance de l'amour qui permet de ne pas être broyé par la machine politique, ni par d'autres institutions parfois semblables à des monstres froids. L'amour qui ponctue cet épisode, c'est le mot principal de ce passage biblique, l'agapé pour reprendre le terme grec. C'est ce qui peut nous sauver de ces situations mortelles et que nous ne pouvons ni ignorer ni mépriser parce que s'y joue l'avenir de nos sociétés. L'amour n'a rien d'enfantin. L'amour n'est pas à réserver aux naïfs. L'amour, c'est ce qui nous maintient à flot dans les situations de transition où les alliances sont indispensables pour faire le poids. Il n'y a pas de possibilité de se maintenir dans ces monstres froids sans alliance, dont l'amour est le moteur. L'amour nous permet de ne pas succomber à la tentation de la rivalité. L'amour nous permet d'entretenir des relations saines avec les autres personnes, qui ne sont pas considérées comme des menaces, mais comme des partenaires. Si nous sommes en opposition, nous ne sommes pas opposés à des adversaires, mais à des partenaires, tous ayant à cœur de servir l'intérêt général. L'amour nous permet de ne pas subir les intrigues de palais, en nous permettant de conserver le cap sur ce qui a un caractère sacré, plutôt que d'opérer des actions de basses œuvres. Bien avant l'apôtre Paul, ce texte nous dit que si je n'ai pas cet amour inconditionnel qui s'enracine dans l'Éternel, je ne suis rien qu'une cymbale qui résonne. L'amour peut tout. L'amour est ce qui nous permet de tout surpasser. L'amour est ce qui transcende toutes les circonstances. L'amour est ce qui nous permet de transcender notre condition. Amen.